Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Filles de l'Histoire. Voilà une fille de roi, future reine, dont on ne connaît pas la date de naissance. Comme on apprend qu'elle a 12 ans le jour de ses noces et que les noces ont lieu en janvier 1308, on peut donc en déduire qu'elle est née pendant l'hiver 1295-1296. Et c'est tout ce que nous en saurons. Alors, de qui est-elle la fille? Eh bien, de Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre, qui se sont mariés donc en août 1284 à Paris et sont sacrés à Reims le 6 janvier 1286. Eh bien, il est à remarquer une chose, c'est que c'est un couple extrêmement uni et inséparable. Rappelons son arrière-grand-père, c'est le roi Saint-Louis. Hein. Alors, est-ce qu'elle a des frères et sœurs, cette Isabelle? Oui. Ses deux sœurs aînées, Marguerite et Blanche, sont décédées en bas âge, alors donc elle ne les a pas connues, mais elle a trois frères aînés. Louis, qui est né en octobre 1289, Philippe vers 1293 et Charles en juin 1294. Et les trois vont régner. Alors très tôt, elle a conscience qu'elle est issue quand même de la lignée la plus illustre d'Europe. Son père règne sur le pays le plus riche et le plus peuplé. Et que sait-on de son enfance? Ben, pas trop grand-chose, au moins le nom de sa nourrice, qui s'appelait Théophanie de Saint-Pierre, dame de Brignancourt, qui d'ailleurs va rester à ses côtés jusqu'à son mariage, et elle va même la suivre en Angleterre. Alors où est-ce qu'elle vit, Isabelle? À Paris, dans le palais de la cité, c'est-à-dire le palais de son père, qui est en train de faire reconstruire dans l'un des châteaux des environs, à Vincennes par exemple, et puis après ça il s'occupe aussi de Fontainebleau et de Saint-Germain-en-Laye. Alors elle apprend à lire et à écrire, elle apprend aussi ses prières, son père lui est extrêmement attaché parce que elle est sa seule fille. Hein. Ses frères lui donnent le goût de la lecture et aussi de la chasse. Sa maman meurt alors qu'elle a 9 ans et tous les contemporains sont étonnés du chagrin violent du roi qui d'ailleurs ne se remarie pas et n'aura pas de maîtresse. Alors Isabelle maintenant a 12 ans. Eh bien à cette époque-là, une fille est majeure. Alors il y a deux possibilités qui s'offrent à elle, prononcer des vœux pour devenir religieuse ou se marier. Et quand il s'agit d'une fille de la noblesse et mieux encore de la fille du roi, le choix du marié, c'est un choix politique. Et qui choisit? C'est le père. Pas seulement, mais aussi les conseillers laïcs et les conseillers ecclésiastiques. Parce que le mariage, il doit servir les intérêts du royaume. Alors on cherche un époux. Et on s'arrête au fils du roi d'Angleterre, Édouard Ier. La France et l'Angleterre, vous savez, ne cessent de se combattre à cause des possessions anglaises sur le territoire français. Possessions qui descendent de Éléonore d'Aquitaine. Alors finalement, les Capétiens et les Plantagenets décident de faire la paix. Pourquoi? Eh bien, parce que les premiers sont occupés par le conflit avec la Flandre, et puis le second avec l'Écosse. Alors, dès 1298, ils entament des négociations secrètes, avec l'appui toujours du pape, qui, à l'époque, est le pape Boniface VIII. Alors, ce dernier propose un accord qui se conclurait par un double mariage, c'est-à-dire que Édouard Ier, le roi d'Angleterre, il est veuf. On lui fera épouser Marguerite, la sœur du roi de France. Et puis, son fils, eh bien, la fille de Philippe le Bel. Alors, à ce moment-là, elle a quel âge, Isabelle ? Elle a 2 ans. Ben, ça ne fait rien, on fait un traité quand même. Et on signe un traité de paix entre les deux pays, le traité de Montreuil, le 19 juin 1299. Il est précisé par le traité du 1er août 1289, traité, figurez-vous, qui a été signé à Chartres, que Philippe le Bel donnera à sa fille une dot de 18 000 livres. Alors, bon, on ne se rend peut-être pas compte maintenant ce que c'est, mais c'était énorme. Plus une rente annuelle. Et pendant toutes ces tractations, ben, Isabelle, elle grandit quand même. Et maintenant, la voilà, elle a 7 ans. Et bien, 7 ans, on peut la fiancer officiellement. Alors, la cérémonie a lieu à Paris, le 12 juin 1303, par procuration, bien sûr, parce que le premier reste en Angleterre. Qui est là ? Le pape Boniface VIII. Ah oui, mais il meurt, le pape Boniface VIII. Alors, un autre pape lui succède, ce sera Clément V. Il pense que ce serait une bonne idée de profiter du couronnement pontifical pour célébrer le mariage du prince anglais et de la fille du roi de France. On ferait d'une pierre deux coups. Il semble que tout le monde se méfie les uns des autres. Les choses traînent et voilà qu'Édouard Ier meurt le 7 juillet 1307. Son fils alors devient roi sous le nom d'Édouard II et il a 23 ans. Alors qui est-il cet Édouard II ? C'est le 4e et le dernier des 7 enfants d'Édouard Ier et d'Éléonore de Castille. Ses 3 frères aînés sont tous morts. Si bien qu'il est le seul héritier. Il est donc élevé avec ses sœurs, Marguerite et Élisabeth. Alors lui aussi, il a une berceuse, une nourrice, hein, qui s'appelle Alice de Légigrave. Il est grand, d'allure athlétique. Son éducation est confiée à un chevalier gascon, ben oui, puisqu'il possède la Gascogne, hein, Guy Ferré, qui lui apprend l'équitation, le maniement des armes, l'éthique chevaleresque, la courtoisie, le français et le latin. Il aime bien nager, été comme hiver. Il pratique le canotage en compagnie de marins et de gens du peuple. Et curieusement, pour un roi toujours, il s'intéresse à la construction des édifices et des bateaux. Quand je vous dis qu'il s'intéresse, ça veut dire qu'il y participe. Alors, il ne chasse pas, lui, mais il est passionné de chevaux et de chiens. Il paraît qu'il avait une collection extraordinaire de chevaux. Finalement, le mariage franco-anglais a lieu le jeudi 25 janvier 1308 en l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Nous allons faire une première pause musicale.
Amen.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel, qui épouse ce jour, 25 janvier 1308, le fils du roi d'Angleterre qui est devenu roi sous le nom d'Édouard II. Alors, il y a un couronnement après. Donc, Édouard II fixe la date de son couronnement et celui de la reine est couronnée en même temps, hein, le 18 février suivant. Et le mariage est grandiose. Il faut rappeler quand même qu'elle est la fille d'un roi extrêmement riche. La haute noblesse de toute l'Europe du Nord est venue. S'y ajoutent de nombreux prélats, français et anglais. Tout le monde est frappé par la beauté de la reine. Il faut rappeler qu'Édouard et Isabelle se voient pour la première fois ce jour-là. Alors après, la cérémonie, grand banquet bien sûr, des joutes, des récitals, de ménestrels. Le couple quitte Boulogne le 2 février 1308. La traversée a lieu le 7 février. On arrive à Douvres. Édouard II court embrasser à ce moment-là qui donc ? Son favori. Pierre Gaveston, ou Gaveston si vous voulez, moi je dirais Gaveston tout le temps. Isabelle est accueillie par la sœur du roi, par les dames de la noblesse, très bien accueillie. Et le 19 février, le roi et la reine donc font leur entrée à Londres. Ils s'installent à la tour, où Isabelle jouit d'un appartement absolument somptueux. Et l'on met tout de suite au courant que son mari a un favori. Et alors, qui est-il ce favori ? Eh bien, c'est un monsieur, pas très riche, mais qui va le devenir beaucoup, 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 parce que le roi va lui donner beaucoup de territoire. Et il est tellement présent que finalement, les grands barons, les grands nobles de Grande-Bretagne, en ont par-dessus la tête et exigent que Pierre Gaveston soit exilé. Alors, ben, le roi obéit, parce qu'on peut dire qu'il n'est pas très respecté dans le royaume. Il obéit et le Pierre Gaveston donc s'en va en exil. Ah bah, bah pas pour longtemps, hein. Le roi le fait revenir clandestinement et il reprend. Alors il a une influence énorme sur le roi. Si bien que le roi décide de, on va dire, de lois qui ne conviennent à personne. Colère des grands qui exige un deuxième exil pour Pierre Gaveston et un exil hors d'Angleterre. Eh bien, il part. Vous avez deviné la suite ? Ça ne dure pas. Si bien que il revient. Tout le monde est exaspéré de cette situation. Alors, les historiens ont beaucoup parlé de la relation entre les deux hommes. En fait, on n'a vraiment pas su s'il était vraiment homosexuel. Parce qu'à l'époque, la relation d'amour entre Édouard et Gaveston, ça n'implique pas forcément une relation physique. Hein, ça n'est jamais évoqué de leur vivant, ça, finalement. Et ce qu'on reproche au roi, finalement, ce sont les conséquences de son favoritisme. Parce que Gaveston, ben, on ne peut pas dire que ce soit un monsieur bien intéressant. Il est suffisant, on peut dire qu'il est parfaitement insupportable. Les contemporains sont vraiment étonnés de l'empire qu'il a sur le roi. En tout cas, Édouard, dans sa jeunesse, il a eu un fils illégitime qui s'appelle Adam. Et Gaveston, lui aussi, il a eu un enfant, une fille, bâtarde, avant de se marier. Et ensuite, chacun de leur côté auront des enfants légitimes. Vous me direz que ça ne veut rien dire, mais enfin quand même. Voilà. Alors, Gaveston, il aura donc une petite fille, Jeanne, et puis Édouard, ce sera le fils du roi. Les chroniqueurs qui mettent en question la sexualité du roi s'expriment à la fin de son règne, au moment de sa déposition, au moment où tous les gens lui sont hostiles. Alors on peut penser que ce sont des racontars. En tout cas, cette relation laisse très peu de place à la jeune reine. Ben oui, il est trop occupé avec son favori. Mais lorsque le favori est exilé, ah, à ce moment-là, elle est beaucoup mieux traitée. Le roi l'emmène dans tous ses déplacements. Il y a une grosse différence d'âge, hein, parce qu'il avait 23 ans quand elle en avait 12. Donc il se déplace beaucoup, beaucoup, hein, vraiment, à Windsor, à Northampton. Et puis, il lui donne beaucoup d'argent et beaucoup de manoirs. La relation avec les nobles alors s'améliore, et voilà un an qu'Isabelle est mariée. Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre un mari très différent de son papa et très différent de l'image royale des Capétiens. Pourquoi? Ben pourtant, Édouard, il est bien éduqué, il est conscient de ses devoirs royaux, mais il peine à imposer ses décisions aux barons et au Parlement. Je vous rappelle qu'on a en Angleterre, je ne dis pas Grande-Bretagne, ça ne l'est pas encore, hein, on a un système où le roi ne décide pas tout seul, c'est le Parlement qui intervient. Alors bien évidemment, ces derniers prennent de l'importance puisqu'ils ont devant eux un roi qui semble faible. Et alors, ils n'aiment pas la chasse, alors que sa femme en est passionnée. Ils n'aiment pas les tournois, et savez-vous ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent la maçonnerie. Et on le voit, couvrir des toits de chaume, construire des digues, conduire des charrettes, ou carrément ramer. Cependant, oui, ça semble curieux hein, pour un roi, mais il aime écrire pourtant, hein. Il est passionné de musique, de théâtre et de poésie. Il a aussi le sens de l'humour. Mais il a quand même deux gros défauts. Il est vindicatif et rancunier. Alors pour l'instant, il ne voit dans sa femme qu'une enfant, bien sûr, et il ne se rend pas compte qu'il a affaire à quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça, tous les contemporains sont d'accord là-dessus. En attendant, Gaveston, je vous rappelle les favoris, est toujours exilé. Il est exilé, bon, pas si loin que ça, en Irlande. Si bien qu'Édouard veut le faire revenir. Il a même écrit au roi Philippe le Bel, c'est-à-dire son beau-père, hein, pour qu'il le soutienne. Bon, Philippe le Bel, il prend même pas la peine de répondre. Alors, il n'attend même pas la réponse, de toute façon, il n'arrivera pas. Et il écrit à Gaveston de revenir. Nous sommes le 23 juin 1309. Alors, le Parlement, il est mis bien sûr devant le fait accompli. Et dans sa grande majorité, accepte la chose si le favori n'intervient pas dans les affaires du royaume. Isabelle, qu'est-ce qu'elle dit? Ben rien pour l'instant. On dirait vraiment un ménage à trois. Et le favori, il se montre de plus en plus arrogant. Il provoque les barons, il se moque d'eux. Alors le Parlement est convoqué pour le 6 février 1310 à Londres. Et les barons y arrivent accompagnés de troupes armées. Ils refusent d'assister à la séance du Parlement tant que le favori sera là. Alors Édouard prend peur et il envoie son favori dans le nord. Le Parlement entre donc en session et le roi doit faire face à des torrents d'accusations. Les barons le menacent même de le déposer. Alors, pour se rallier la noblesse, Édouard annonce qu'il va combattre les Écossais. Pourquoi ça? Eh bien, en Écosse, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Bruce, ou Bruce, comme vous voulez, qui s'est couronné lui-même roi d'Écosse. Il tient l'Écosse, sauf une forteresse au sud. Alors, l'armée royale se réunit sous ses murs. Les Écossais refusent de combattre, préfère la politique de la terre brûlée. L'armée anglaise n'arrive pas à prendre la forteresse, donc le roi revient à Londres avec la reine et il laisse sur place Gaveston, lieutenant royal pour l'Écosse. Et quand il arrive à Londres, le roi donc, hein, c'est pour entendre les ordonnances que le Parlement a concoctées. Qu'est-ce qu'elles disent ces ordonnances? Que le roi ne peut plus octroyer de terre, ni déclarer la guerre, ni quitter le royaume sans le consentement des barons et du Parlement. Qui plus est, ces banquiers italiens sur place qui habitaient la Grande-Bretagne et qui lui fournissaient pas mal d'argent sont bannis. Et Pierre Gaveston est déclaré ennemi public du roi et du peuple anglais et il est condamné à un exil perpétuel hors du royaume. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Patre mitter.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Isabelle de France, la fille de Philippe IV le Bel, et des problèmes qu'il y a dans le royaume parce que son mari a un favori arrogant, épouvantable, qui dicte sa loi, et tous les grands du royaume et le Parlement sont furieux contre lui, décident des ordonnances et décident qu'il doit être complètement exilé hors du royaume. La reine Isabelle arrive, elle aussi, à Londres. Elle y parvient le 21 août 1311. Les ordonnances sont signées par le roi. Bah oui, il a pris peur, hein. La reine le soutient. Et le 1er novembre 1311, Gaveston, donc le favori, est banni. Il part pour le Brabant. Isabelle quitte Londres pour se rendre en pèlerinage à Canterbury. Le couple royal passe les fêtes de Noël au palais de Westminster. En cette fin d'année 1311, Isabelle a 15 ans. Elle est toujours très belle. Elle n'est plus la petite fille délaissée par le roi. Elle est devenue une dame puissante, possédant de nombreuses seigneuries, des joyaux, une vaisselle d'or et d'argent. Elle pratique la charité et les pèlerinages, en particulier celui de Saint Thomas Becket à Canterbury. Et le favori, lui, qui est parti là-haut, eh bien, il arrive à revenir en Angleterre. Et le roi le rejoint. Le 20 janvier 1312, il rend tous ses biens à son favori. Alors les nobles et les prélats sont fous furieux. Ils se réunissent à Saint-Paul le 13 mars 1312. L'archevêque de Canterbury excommunie Pierre Gaveston et les nobles se préparent à la guerre. Le roi, à ce moment-là, il est à York. Isabelle le rejoint le 24 février 1312. La femme de Gaveston vient d'accoucher d'une petite fille, Jeanne, et voilà qu'Isabelle est enceinte. On pense que le mariage a été consommé sans doute autour de Noël 1311, pendant l'exil de Gaveston. Elle l'écrit à son père. Cependant, le pouvoir du roi est fragile. Le pays est au bord de la guerre civile. Les nobles pensent que le mieux, ça serait de tuer Gaveston, le favori. Le roi met sa femme à l'abri au prieuré de Tynemouth. Édouard et Gaveston sont à Newcastle. Les nobles Lancastre, Clifford et Percy les surprennent. Et les deux hommes s'enfuient par bateau. Alors Lancastre prend la ville, s'empare de la femme et de la fille de Gaveston. Le roi pense avoir mis son favori à l'abri. Mais le château n'est pas ravitaillé et Gaveston finit par se rendre le 19 mai 1312. Alors là, pour lui, ça va être affreux. Il sera jugé au Parlement de Londres. Sur le chemin, on s'arrête pour passer la nuit. Donc on enferme le prisonnier dans un presbytère, le presbytère de la paroisse. À ce moment-là, le comte de Warwick et Guy de Beauchamp en profitent. Ils capturent Gaveston. Warwick le ramène dans son château. L'enferme dans le donjon. Quand le roi apprend la situation, il est absolument effondré. Il écrit au pape, il écrit au roi de France pour qu'ils interviennent en sa faveur. Le 18 juin, les nobles se prononcent pour une mise à mort du favori. On réunit un semblant de tribunal et Gaveston est décapité et laissé sur place. Ce sont les dominicains de Warwick qui en ont pitié et qui l'enterrent. Il laisse une femme de 18 ans et une petite fille de 5 mois, qui mourra d'ailleurs à l'âge de 13 ans. Et puis une fille légitime qui s'appelle Amy. Réaction d'Édouard. Eh bien, Édouard, il est dévasté. Quant à Isabelle, eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle en a pensé. La mort de Gaveston crée un fossé profond entre le roi et ses barons. Édouard est décidé à venger son ami. Et ça va occuper les 10 prochaines années de son règne et ça va peser sur la vie de la reine, bien malgré elle. Alors, elle devient à ce moment-là vraiment la première conseillère et l'amie du roi. Elle est beaucoup plus intelligente que lui et elle voit bien mieux les choses. Alors, à ce moment-là, elle lui donne un fils, ça sera le futur Édouard III. C'est une reine de paix. Elle va essayer de réconcilier son mari avec ses sujets. Et elle va œuvrer activement pour une diplomatie positive entre la France et l'Angleterre. Le roi alors convoque un parlement à Westminster pour le 20 août, afin de discuter des affaires du royaume. Son intention, c'est de ramener la paix, même s'il doit différer sa vengeance contre ceux qui ont tué son favori. Isabelle, elle, reste à York pendant tout le mois de juillet, où elle fait des donations aux institutions ecclésiastiques. Elle revient à Londres le 9 septembre, c'est la première fois qu'elle revoit son époux depuis la mort du favori. Elle part alors pour Windsor pour accoucher. Édouard ne la quitte pas, il reste à son chevet jusqu'au 25 octobre 1312, mais la naissance n'arrivant pas, il retourne à Londres pour les négociations des ordonnances. Le 13 novembre 1312, à 5h40 du matin, naît le futur Édouard III. Philippe le Bel, en père intentionné, lui a envoyé son propre chirurgien et cette naissance donne lieu à des réjouissances dans tout le royaume. Vous savez qu'à ce moment-là, la mortalité infantile fait que l'enfant est baptisé immédiatement. Ce sera le 16 novembre 1312 et il a 7 parrains. Il y a une petite dispute pour le prénom parce que le roi et les nobles français auraient bien voulu qu'il s'appelle Louis. Ben non, ce sera Édouard. Le nourrisson est confié à une nourrice anglaise, Marguerite de Daventry, et le 24 décembre, c'est la cérémonie des relevailles de la reine. Le petit Édouard est fait comte de Chester. Le roi lui attribue tous les châteaux royaux, de l'île de Wight. Le 20 décembre, les meurtriers de Gaveston ont accepté de demander pardon au roi. Édouard et Lancastre alors mangent même à la même table. Cependant, la haine qui les oppose n'est pas du tout oubliée. Isabelle revient à Londres, où la ville lui réserve un accueil superbe. Puis elle se rend en pèlerinage à la cathédrale de Canterbury afin d'y remercier Thomas Becket pour la naissance de son fils. Le mariage d'Édouard et d'Isabelle, finalement, c'est une réussite. Ils ne se quittent pas. Isabelle est toujours superbe. Elle a hérité de la beauté de son père, c'est pas pour rien qu'on l'a appelée Philippe le Bel. Elle est grande, blonde, consciente de sa valeur, jalouse de sa dignité et très ambitieuse, pas pour elle, ambitieuse pour son mari. Aucune reine d'Angleterre n'a disposé d'autant de richesses. Ajoutons qu'elle est dotée d'une santé de fer. Elle donnera naissance à 4 enfants à son mari, 2 fils et 2 filles, qui parviendront tous à l'âge adulte. Le roi et la reine sont très religieux. Isabelle possède plusieurs reliques. Elle privilégie les franciscains alors qu'Édouard lui préfère les dominicains. La journée de la reine est strictement réglée. Elle se consacre à l'éducation de ses enfants, aux œuvres pieuses et charitables, à la lecture d'ouvrages de dévotion et à des travaux d'aiguille. Elle participe aussi au plaisir de la cour, elle sait danser, elle sait chanter, elle joue même aux échecs. Et, chose surprenante, elle chasse à cour. Elle se partage entre les cérémonies officielles la gestion de ses nombreux domaines. Ses activités sont souvent interrompues par des troubles politiques. Elle fait aussi des pèlerinages parce qu'il faut se montrer à ses sujets. Alors on se déplace beaucoup. Habituée de toute façon, depuis son enfance, Isabelle a déménagé, puisque vous savez bien qu'à l'époque, les rois ne restaient pas dans le même château. Donc, elle voyage léger. Elle a à son service 180 personnes. Et à sa cour, français et anglais travaillent en bonne intelligence. Tous parlent une forme de français qui s'appelle le franco-normand, mais on parle aussi anglais. rares sont les reines qui retournent dans leur pays d'origine. Eh bien, en moins d'un an, Isabelle se rend deux fois à Paris pour y retrouver sa famille. Depuis la mort du favori et la naissance d'un dauphin, les relations sont au mieux entre les royaumes de France et d'Angleterre. À la fin d'avril 1314, l'oncle d'Isabelle, Louis d'Évreux, vient inviter le roi et la reine d'Angleterre à assister à l'adoubement des trois fils de Philippe IV. Vous savez, ça veut dire qu'on les déclare chevaliers. Je vous rappelle qu'ils s'appellent Louis, Philippe et Charles. La cérémonie doit avoir lieu à Paris le jour de la Pentecôte. Isabelle, alors, offre un banquet à son oncle avant de se préparer au départ. Mais les ordonnateurs ne veulent pas laisser partir le roi tant qu'il ne se sera pas plié aux ordonnances décrétées par le Parlement. Édouard dit que Philippe le Bel le réclame, car il faut régler les problèmes de la Gascogne qui est anglaise. Alors finalement, le roi est autorisé à partir. Ils sont enchantés tous les deux, elle parce qu'elle va revoir sa famille, et lui parce qu'il s'éloigne de ses sujets qui sont un petit peu récalcitrants. Il s'embarque à Douvres avec 220 personnes. Il débarque en Gascogne, je vous rappelle que c'est une terre anglaise, et prennent la direction de Paris, où ils arrivent le 1er juin. Alors les trois princes sont adoubés le 3 juin, le 5, Édouard et Isabelle offrent un grand dîner, avec des distractions, et le soir même, c'est le roi de France qui offre une grande fête et à sa fille, et à ses belles-filles, Marguerite de Bourgogne, l'épouse de Louis, Jeanne de Bourgogne, mariée à Philippe, et Blanche, mariée à Charles. Le 6, les deux rois s'engagent à partir en croisade jusqu'en Terre Sainte. C'est un engagement qui ne sera pas suivi. Les souverains anglais s'installent à Pontoise jusqu'à la fin du mois. Et c'est dans cette ville que les deux souverains vont discuter des problèmes posés par la possession de la Gascogne par l'Angleterre. Et voilà que surgit un incident très grave. Alors qu'ils dorment sous leur tente, un incendie énorme se déclare. Édouard a juste le temps de sortir sa femme, qui est brûlée au bras et à la main, et elle, d'ailleurs elle mettra très longtemps à en guérir. Sa consolation, c'est de voir son père et son mari réconciliés. Le couple anglais, alors, repart en Angleterre, et ils arrivent à Londres le 23 juillet, s'installent au palais de Westminster. Le roi convoque les assassins de Gaveston, son favori, lesquels s'agenouillent et demandent grâce et pardon. C'est accordé, mais accordé grâce à Isabelle qui est beaucoup intervenue. Cependant, Édouard n'a toujours pas accepté les ordonnances. On croyait les affaires résolues, elles ne le sont pas du tout. Donc Édouard envoie Isabelle en France. Elle arrive à Paris le 14 mars 1314. Elle s'installe à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et du 19 au 24 mars 1314, elle se rend en pèlerinage à Chartres. Pendant les 8 semaines qu'elle passe en France, Isabelle se présente comme une reine dévote qui multiplie les dons au sanctuaire, qui chasse avec son père et ses frères. Ça l'empêche pas de discuter avec son père, dont elle obtient de nombreuses concessions pour son mari. Eh bien, le mari, il est content, bien sûr. Elle quitte la France et au moment où éclate un scandale. Là, je ne vais pas beaucoup développer parce que si vous avez lu « Les rois maudits » ou vu le film, on dit que les trois belles filles de Philippe IV le Bel trompent leur mari et que Isabelle les aurait dénoncées. Lisez l'histoire de Maurice Ruon, mais les experts ne sont pas d'accord sur l'intervention d'Isabelle qui aurait soi-disant agi par jalousie. De retour à Londres, qu'est-ce qu'elle apprend, Isabelle ? Que le roi est parti vers le nord avec une armée pour combattre les Écossais. Alors elle le rejoint, les Anglais et les Écossais s'opposent et les pauvres Anglais sont vraiment largement battus. Le roi s'enfuit par la mer. La reine et lui se réfugient alors à York et cette défaite affaiblit vraiment le pouvoir du roi. Et voilà qu'Isabelle apprend une nouvelle qui l'accable. Son père, le puissant Philippe IV, est décédé le 29 novembre 1314 à Fontainebleau après une partie de chasse. La défaite humiliante des Anglais a plongé le royaume d'Angleterre dans la plus grande consternation. Les chroniqueurs n'hésitent pas à considérer leur roi comme un incapable et même comme une calamité. Isabelle, elle, reste fidèle à Édouard II. Elle le soutient. Le mécontentement pourtant est général. La renaissance d'une monarchie écossaise devient une certitude. Et surtout, le nord de l'Angleterre est à la merci de raids écossais. Les comtes de Lancastre et de Warwick n'ont pas participé à la bataille, si bien que eux ont du prestige. Et Thomas de Lancastre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il dit, vu qu'on a un roi qui semble absolument nul, moi je me verrais bien dominer le gouvernement du royaume. Et lors d'une séance du Parlement, il exige l'application des ordonnances et le renvoi des mauvais conseillers jugés responsables du désastre de la bataille. Alors le comte est venu avec une armée, si bien que le roi est obligé de chasser ses conseillers, qui sont remplacés par qui ? Par des hommes, évidemment, du comte de Lancastre. Les revenus du roi et de la reine sont réduits, si bien que le roi, il finit par accepter toutes les ordonnances. Dès lors, Lancastre considère la reine comme une ennemie, parce qu'elle soutient son mari. Il s'est rendu compte de sa très grande intelligence. Alors, qui règne en France à ce moment-là ? Eh bien, le fils aîné de Philippe IV, Louis, que l'on nomme Louis X le Hutin, ce qui se met un petit peu souvent en colère. On a un nouveau pape aussi, qui s'appelle Jean XXII, chaudement félicité par Isabelle, qui lui fait envoyer deux chapes absolument superbes. On peut dire maintenant que le comte de Lancastre gouverne le royaume. Le roi doit lui demander son avis afin de prendre toute décision. La conduite du roi choque ses contemporains. Pourquoi donc ? Eh bien, figurez-vous, il préfère la compagnie des acteurs, des charretiers, des marins et de tous ceux qui travaillent de leurs mains. Et Isabelle, eh bien, elle ne dit rien. Elle se montre peu attentive aux souffrances de son peuple. À quoi est-ce qu'elle se consacre ? Beaucoup à la chasse. Et voilà que s'abattent sur l'Angleterre de véritables calamités, des inondations, une épizootie qui ravage les troupeaux de moutons et de bovins, la typhoïde qui décime la population. Eh bien, l'unique réponse du roi aux difficultés de son peuple, c'est la répression. La disette et le désespoir ont provoqué une révolte de la faim, par exemple, chez les habitants de Bristol au printemps 1316. Eh bien, Édouard II charge Roger Mortimer de réprimer cette révolte. Le peuple meurt de faim, les Écossais ravagent le Nord, ainsi que l'Irlande. Le roi est maintenant sous l'emprise d'un autre, finalement, qui n'est pas un favori. C'est quelqu'un qui s'est imposé, qui s'appelle Despenser. Isabelle a la douleur de perdre son frère, le roi Louis X, à l'âge de 27 ans. Elle est enceinte et met au monde un autre fils, Jean, le 15 août 1316. Désormais, Isabelle règne sur le cœur de son royal époux. Elle est la mère de ses deux fils, sa plus proche conseillère. Elle dispose aussi de l'une des plus grandes seigneuries du royaume, tandis que son peuple souffre, la reine d'Angleterre ne s'apitoie pas sur ses malheurs parce qu'elle-même doit faire face à de nouveaux dangers. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Au revoir à tous. Oui. Glory.